Bonjour Antoine Chaudet, tu es avocat au barreau de Lille et président de la section lilloise du SAF, le syndicat des avocats de France. On est ensemble pour évoquer la loi de sécurité globale et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de pouvoir l'évoquer d'un point de vue juridique. L'attention s'est beaucoup concentrée sur l'article 24 qui pour l'instant est suspendu, qui empêche la diffusion des images de policiers ou de gendarmes en service si ces images peuvent attenter à leur intégrité physique ou morale. Alors pourquoi est-ce que c'est cet article qui attire l'attention et est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça occulte d'autres mesures qui sont présentes dans la loi et qui seraient elles-mêmes aussi liberticides?
Alors effectivement, je pense que cet article a cristallisé l'attention et la fronde contre la loi sécurité globale. À mon sens, c'est essentiellement dû parce que ça vise à la liberté d'informer, qui est celle des journalistes, et que donc ça a pu avoir un impact assez fort en termes de mobilisation. Mais le risque, c'est effectivement aussi, comme vous le dites très justement, que ça occulte toutes les autres mesures qui sont prévues dans ce projet de loi, qui sont extrêmement liberticides aussi, au même titre que cet article 24. On en parlera sans doute, on parle dans la légalisation de l'usage des drones, l'extension de certains pouvoirs aux polices municipales, un certain nombre de points qui posent aussi une grande difficulté à mon sens, et le risque que l'on concentre tout sur l'article 24, c'est d'occulter effectivement toutes les autres mesures prévues par ce projet de loi.
Cet article 24, parmi les autres, il met quand même l'attention sur quelque chose qui relève ce qu'on pourrait appeler une pénalisation de l'intention. Est-ce qu'on peut en fait condamner une intention de nuire? Parce que c'est ça qui est visé, sachant que concernant la diffusion ou la prise d'image, par exemple dans des manifestations et leur diffusion sur des réseaux sociaux, voilà, pour prendre un exemple concret, c'est difficile de savoir si la diffusion vise effectivement de porter une atteinte aux forces de l'ordre.
Alors effectivement, bon, déjà l'intention en droit pénal, elle est déjà pénalisée au titre de l'élément moral. Il y a toujours deux choses dans une infraction. Je fais un tout petit peu de technique, mais on a un élément matériel, c'est un acte matériel, et un élément moral, c'est l'intention de commettre un délit qui est précisé par la loi. Effectivement, la question de l'intention dans ce délit particulier prévu par l'article 24, c'est une question qui sera posée. Il y a un acte matériel qui est de publier à un moment une vidéo sur Internet ou sur les réseaux sociaux d'un policier, puis reviendra après au juge de, essayer de déterminer si cette publication, cet acte matériel s'accompagne d'une volonté de nuire à l'intégrité des forces de l'ordre. La difficulté, et c'est ce sur quoi on alerte aussi nous les avocats, c'est que en réalité, avant d'arriver devant le tribunal et donc devant un juge qui appréciera ou pas s'il y a une intention de nuire, il y a toute une phase avant qui est constituée par une interpellation en manifestation éventuellement quand quelqu'un filme, parce que la loi sera mal appréhendée et on sait très bien comment ça se passe sur le terrain avec une répression qui vise les manifestants. Les personnes seront interpellées, placées en garde à vue et subiront donc 48 heures de privation de liberté avec toutes les difficultés qui s'en suivent et que cela occasionne. Et ce n'est qu'à l'issue en fait de cette garde à vue que la personne sera le cas échéant renvoyée devant un tribunal et qu'on appréciera l'intention de nuire ou pas. Quitte à ce que le tribunal vienne dire, effectivement, il n'y avait pas d'intention, et puis on se retrouverait avec des relax, parce que c'était pas forcément même l'objet du texte, parce que l'objet du texte, c'est bien la publication des vidéos et non pas le fait de filmer en tant que tel. Mais le problème, c'est qu'avant, sur le terrain, une personne aura dû avoir à subir 24 heures ou 48 heures de garde à vue. C'est ça aussi le problème, c'est l'application, l'appréciation qui sera faite de cette loi sur le terrain par les forces de l'ordre, et c'est ça aussi le gros problème, à mon sens.
Est-ce que ça vient grossir une espèce de boîte à outils dans l'arsenal répressif? Est-ce que c'est ça aussi qu'on peut essayer d'interpréter?
À l'évidence, et on le voit bien de toute façon, quel est le mouvement du droit pénal et le mouvement sécuritaire qu'on a pris depuis plusieurs années. Et on constate que on a eu tout d'abord l'état d'urgence suite aux attentats terroristes et qui au final ont visé une catégorie de population bien plus large que celle qui était visée initialement. On sait que cet arsenal-là, il a visé à un moment des militants écologistes, les manifestants contre la loi travail en 2017. Et puis ce mouvement, il a continué de s'accentuer avec un certain nombre de lois, de régimes d'exception. Je rappelle que ce qui était prévu initialement dans l'état d'urgence est rentré dans notre droit commun. Et donc, on constate qu'il y a toujours un petit peu de définitif dans du provisoire. Et on continue, malgré tous les avertissements qu'on a pu avoir des hautes juridictions de ce pays, des juridictions supranationales, des organisations telles que l'ONU ou autres, qui met en garde depuis des années sur la difficulté qu'il y a à pérenniser un régime d'exception qui est déjà liberticide à sa base. Et là, effectivement, on continue encore une fois à gonfler la boîte à outils, comme vous l'avez dit justement, des forces de l'ordre. Récemment, suite au mouvement des Gilets jaunes, on sait qu'on a eu l'interdiction de manifester, qui a pu s'ajouter aux obligations et interdictions que l'on peut avoir dans le cadre d'un contrôle judiciaire. On a eu le fait d'avoir le visage masqué, qui est devenu non pas une circonstance aggravante, mais une infraction autonome. Avoir le visage masqué aujourd'hui dans une manifestation, c'est un délit. Et là, aujourd'hui, maintenant, on vient rajouter le fait, au-delà de toutes les autres mesures, que même si en réalité c'est bien le fait de publier les vidéos qui est interdit, on en reviendrait de fait quasiment à interdire de filmer les forces de l'ordre dans le cadre d'une manifestation. Donc oui, ça vient encore une fois gonfler un petit peu l'arsenal législatif pour finalement réprimer les manifestants ou les citoyens vigilants qui veulent filmer les forces de l'ordre lorsqu'ils constatent des méfaits qu'ils pourraient commettre.
Est-ce que ça peut aussi nuire à l'exercice des fonctions d'avocat, c'est-à-dire dans la défense des justiciables, parce que ces vidéos peuvent aussi être des preuves?
À l'évidence, il faut savoir déjà que nous, en tant qu'avocats, ces mesures-là, ça heurte notre conscience, parce que ça heurte les principes dans lesquels on croit, et c'est déjà quelque chose qui est difficile à envisager. Mais au-delà de ça, dans le travail quotidien qui est le nôtre au judiciaire, devant un tribunal, on s'aperçoit, dans la défense de manifestants, mais aussi d'autres personnes, dans les quartiers populaires, on sait que la logique qui est à l'œuvre actuellement à l'égard des manifestants, c'est une logique qui est à l'œuvre depuis des années dans les quartiers populaires. Nous, on a besoin de la vidéo pour venir prouver un certain nombre de choses. Je prends un exemple récent parce qu'il est dans la mémoire de tout le monde, ce qui s'est passé la semaine dernière à l'égard de ce producteur de musique, Monsieur Michel Zecler à Paris, qui a été tabassé, je pense on peut le dire, par trois forces de l'ordre, malgré la présomption d'innocence. Je pense que les vidéos sont assez claires. Si on n'avait pas eu la vidéo pour établir un certain nombre de choses, d'une part, les policiers ne seraient pas poursuivis, et d'autre part, Monsieur Zecler, sur la base des procès-verbaux établis par les forces de l'ordre, il n'aurait pas eu la possibilité de se défendre. Il serait peut-être aujourd'hui en mandat de dépôt pour des faits qu'il n'a manifestement pas commis. C'est une grosse difficulté, et on s'aperçoit que la vidéo, ça permet de contribuer dans de très nombreux cas à la manifestation de la vérité. On parle donc bien de droit de la défense, quelque chose qui est le plus élémentaire dans une société démocratique. Donc oui, pour nous, on est aussi très inquiets, et s'agissant aussi de la défense de manifestants, parce que moi j'interviens régulièrement pour des manifestants devant les juridictions répressives, c'est un élément qui est systématiquement déterminant, avec la même logique que je viens de vous expliquer là. Nombre de relax sont acquises sur la base de vidéos prises par des camarades des manifestants dans les manifestations et qui viennent contredire très formellement ce qui est contenu dans les procès-verbaux. Donc oui, on est inquiet, et c'est aussi la raison pour laquelle les avocats, dont le syndicat des avocats de France, sont très mobilisés dans les manifestations et le mouvement actuel de contestation de la loi.
Alors actuellement, il y a une contestation populaire, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des recours juridiques pour contester ce texte de loi, et notamment les dispositions sécuritaires qu'il déploie, qui peuvent attenter à des libertés individuelles, surveillance de masse par les drones, la transmission en temps réel des vidéos enregistrées par les caméras individuelles des brigades de police et de gendarmerie.
Donc, ouais, les caméras piétons. Hein.
Voilà, est-ce que juridiquement ou légalement, il est possible de venir contester ces dispositions qui, d'une manière générale, nous préparent à une société de surveillance globale et généralisée?
Oui, tout à fait. Ça, c'est, si vous voulez, c'est le rôle du Conseil constitutionnel qui est chargé vérifier la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire de vérifier que les lois qui sont adoptées sont conformes à la Constitution. D'ailleurs, le Premier ministre a annoncé récemment qu'il soumettrait, alors non pas la totalité de la loi a priori, mais ne serait-ce que l'article 24 a priori, eh bien, au contrôle du Conseil constitutionnel. Il faut savoir que dès lors qu'une loi est adoptée, avant sa, par les deux assemblées, avant sa promulgation par le président de la République, elle peut être déférée au Conseil constitutionnel, par les parlementaires notamment, afin que le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité et donc finalement sur la légalité de la loi avant sa promulgation et donc son application concrète. Le Premier ministre l'a annoncé même avant que le Sénat ait eu à se prononcer sur ce projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, même s'il apparaît qu'il est retiré aujourd'hui. On a un petit peu du mal à s'y retrouver, mais le Premier ministre a indiqué qu'en réalité, il allait déférer cet article au Conseil constitutionnel. Je ne doute pas que des parlementaires, des groupes d'opposition, notamment qui sont en capacité juridique de le faire, saisiront le Conseil constitutionnel sur l'intégralité de cette loi avant sa promulgation. Et je sens présager de ce qui sera décidé. Je pense aussi très clairement que le Conseil constitutionnel, à un moment, retoquera, c'est-à-dire invalidera, ne serait-ce que cet article 24, puisqu'il contrevient à l'évidence, à mon sens, à la liberté et au droit d'informer. Donc, finalement, même si je pense que la mobilisation est bien évidemment nécessaire, je n'ai pas trop de crainte, j'ai envie de dire, sur le fait que, à un moment, le Conseil constitutionnel viendra sans doute mettre son holà à tout ça.
Quelle est la position du syndicat des avocats de France ? Est-ce que c'est le retrait de l'article 24 ou est-ce que c'est le retrait, l'abrogation de cette loi de sécurité globale ?
La position du syndicat des avocats de France, elle est extrêmement claire. C'est le retrait total de la loi. D'ailleurs, le syndicat au national a appelé tous les avocats syndiqués ou non d'ailleurs à se joindre au mouvement de manifestation et encore ce samedi. Donc c'est cette position là. Mais finalement j'ai envie de dire ça s'arrête pas là parce que à la fois l'article 24 et la partie haute de l'iceberg de cette loi sécurité globale, mais la loi sécurité globale en tant que telle est aussi la partie haute de l'iceberg de tout l'arsenal qui est en train de se prendre actuellement. Et je fais une brève aparté pour vous dire que aussi au niveau judiciaire, dans notre pratique du quotidien, l'épidémie actuelle de Covid-19 a permis au gouvernement de prendre un certain nombre d'ordonnances, donc cette fois on n'est plus sur des lois adoptées par le Parlement, des ordonnances directement prises par le gouvernement qui viennent extrêmement restreindre les droits de la défense avec un recours notamment extrêmement massif à la visioconférence. On constate d'ailleurs que le gouvernement veut plus d'images pour certains mais que pour d'autres, notamment s'agissant des drones mais aussi de la visioconférence, ils font tout pour accentuer ce mouvement-là, avec donc des personnes qui n'ont plus accès à leurs juges, des personnes en grande fragilité parce que détenus et enfermés pour lesquels c'est extrêmement compliqué, qui se retrouvent aujourd'hui à ne plus avoir accès à leurs juges parce qu'on estime que compte tenu du contexte sanitaire, on ne peut plus les transporter. On s'aperçoit en réalité que l'objectif réellement poursuivi, c'est de faire des économies et que, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est adopté actuellement a vocation à faire un petit peu un test de ce qui s'annonce pour la suite avec une justice de plus en plus dématérialisée et inhumaine. Donc nous, le mouvement actuel, il se limite pas de contestation, il se limite pas à la loi sécurité globale, il se limite en réalité à toutes ces ordonnances qui sont systématiquement prises par le gouvernement, toutes ces lois qui viennent de plus en plus restreindre nos droits, nos libertés, les droits de la défense notamment, et c'est ce qui pose une réelle difficulté parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il subsiste toujours du provisoire, du définitif, et on est effectivement très inquiet par rapport à tout ça. Donc nous, l'objectif, c'est effectivement d'être présent pour contester cette loi-là, mais aussi tout le reste, tout ce qui est à côté.
Merci beaucoup Antoine Chaudet. Je rappelle que tu es avocat au barreau de Lille et président de la section lilloise du SAF, le syndicat des avocats de France.
Ouais, je vous remercie de m'avoir invité.